France Culture. Les nuits de France Culture.
L'essence même de la gastronomie ne réside pas dans l'objectivité, dans le factuel. Elle ne réside pas non plus dans une capacité indéniable à juger tel ou tel plat, à savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Faire la cuisine n'est pas un acte rationnel ou scientifique. C'est avant tout un geste émotionnel, affectif. C'est l'amour et le souvenir qui créent un grand plat. Et pour celui ou celle qui le déguste, ce ne sont pas que les papilles qui travaillent à créer un moment de plaisir intense, voire une révélation culinaire. À la façon de la fameuse Madeleine de Proust, un plat peut toucher à des souvenirs oubliés, enfouis, qui ressurgissent soudainement au contact d'une saveur qui fait signe vers notre passé. Une ratatouille, un riz au lait, un couscous, des ravioles fraîches, un beau cordon bleu, qu'importent les cultures et les horizons sociaux, la cuisine communique de l'émotion, en nous renvoyant vers des moments précieux d'un passé perdu. Cuisiner, c'est ainsi un acte de partage absolu, où l'on passe des heures derrière les fourneaux pour créer chez nos proches, des convives ou des clients, un bouleversement inattendu des sens et de l'esprit. Ce premier épisode de la série « Saveur, savoir et rêverie gustative » de René Elkaïm Bollinger, pour « De bouche à oreille », nous emmène du côté de Poudenas, dans le sud-ouest de la France. C'est l'enfant du pays, Marie-Claude Gracia, chef cuisinière à l'auberge La Belle Gasconne, qui nous ouvre la porte de sa cuisine et de ses souvenirs. Des figues farcies au jambon de canard, à la sauce au canard et aux olives que faisait sa marraine quand elle était petite, c'est une ode poétique à la cuisine et aux souvenirs que nous propose cette émission, diffusée pour la première fois le 1er août 1994 et réalisée par Anne-Marie Chapoulier.
Les figues violettes farcies au jambon de canard et à la menthe de mon amie Nicole. Nicole, c'est mon amie, c'est ma sœur. C'est elle qui m'a donné cette recette. Évider les figues bien mûres à la petite cuillère, préparer une farce avec la crème fraîche, la menthe, les feuilles de menthe et le jus des citrons. Hacher grossièrement le jambon pour l'intégrer à la farce. Vous pouvez le faire avec du jambon de cochon hein, aussi. Rectifier l'assaisonnement en fonction du jambon. N'ayez pas peur de bien poivrer. Le jambon, bien sûr, rectifier l'assaisonnement parce que s'il est un petit peu plus salé, on ne sait jamais, méfiez-vous. Et fourrer les figues avec cette préparation. Alors placez-les au frais au réfrigérateur pendant 2 ou 3 heures. Vous avez assez de jugeote pour le voir, pour tâter le voir quand c'est bien. Pour servir, tapissez un plat de service avec de jolies feuilles de figuier bien étalées et disposez les figues glacées par-dessus. Alors cette recette, j'ai noté, constitue une entrée pour un déjeuner ou un plat complet pour un dîner. Enfin pour un homme, hein, ça sera juste. Une salade craquante, une sucrine par exemple, ou une bonne scarole d'été, accompagnée de la peau de canard coupée en morceaux poêlés, poêlés vivement au dernier moment. Ici on les appelle les grissillons ou gratons. Alors donc sera la bienvenue avec ces figues farcies que l'on arrose d'un vin blanc fruité du pays. Alors voyez, vous mettez des violettes, là vous savez, du mois d'août, là qui sont... Alors on sort bien la chair, j'ai mis évider. J'aime mieux redire maintenant, enlever la chair, toute cette chair un petit peu grainée, et puis bien la mélanger avec cette crème fraîche qui va ajouter le liant, et puis le jambon de canard qui va apporter ce fumet un peu sauvage. Et puis bien, tout simplement comme ça, assaisonner, et puis cette petite menthe stimulante et estivale.
Poudenas, au bord de la Gélise, dans le sud-ouest de la France. La Belle Gasconne, c'est le nom d'une auberge. Marie-Claude, c'est le chef, cuisinière, comme elle dit, de mère en fille. On va la suivre dans sa cuisine, au marché avec ses amis de Poudenas. On la retrouvera sur la terrasse et sous les acacias. Été 93, de bouche à oreille proposait une petite poétique de la nourriture. Épices, aromates, fruits d'été, le bout de grain, le grain des nourritures. Une figue, sa légende, son halo, melon, cannelle, dorade. Été 94, de bouche à oreille enquête. Saveur, savoir et rêverie gustative. On essaie de capter goût et dégoût, une mémoire des nourritures d'enfance, une petite exploration des palais et des gosiers. Bon à manger, bon à penser, écrit Lévi-Strauss. On pourrait ajouter bon à rêver. Rêver avec des enfances sucrées salées, Colette et l'abricot cueilli et mangé au soleil, écouter Mariem, une femme gavée. Explorer des nourritures exotiques, le durian, ce fruit pestilentiel, et aussi l'écœurante peau du lait. 10 émissions pour tendre l'oreille aux saveurs, entre curiosité et nostalgie, aux mots de la cuisine et à la cuisine des mots, les mots à savourer.
J'aime les mots, c'est vrai, j'aime les mots. J'aime lire et j'aime les mots. Il m'arrive quand un livre me plaît, c'est pas tous les jours, hein. Parce que plus on lit, bien sûr, plus on est difficile après, mais de me régaler comme si j'avais quelque chose de bon dans la bouche. Et je reviens en arrière, je relis une phrase lentement dans ma tête et je reprends un mot ou deux mots que j'isole et puis je reviens en arrière et puis après je repars. Mais il y a des mots que je remue dans ma bouche, que je savoure, que je laisse fondre. Vraiment, j'aime les mots, oui. Même les mots, certains mots triviaux, ça ne fait rien. Les mots dits, quand je sens que l'écrivain, là, sûrement qu'il a beaucoup travaillé, mais que ça vient naturellement, mais que les mots... Les mots ont été choisis entre 10 000. J'aime bien que le vocabulaire ne se borne pas à 3 000 mots et qu'ils deviennent de plus en plus restrictifs. J'aime bien qu'on invente des mots. Ça me fait rire. Moi, j'adore. Si autour de moi, à la campagne, et moi-même qui suis campagnarde de naissance, on invente des mots. Quand on ne trouve pas un mot, on l'invente. Même si après on l'oublie, ça ne fait rien. Mais il a vécu un moment, le mot. J'aime les mots, la voix. Premier souvenir, je peux dire, de m'être régalé, un souvenir gastronomique, j'aime pas trop ce terme, oui. Ça fait vaniteux, mais de gourmandise, m'être léché les babines et tout, c'est 3-4 ans. Hein. Et mes parents avaient beaucoup de travail le dimanche, puisqu'ils étaient restaurateurs hôteliers, et maman avait beaucoup de travail en cuisine, et ils me confient à ma marraine, Lydia, et qui allait à la messe, qui était très pieuse. Et elle m'amenait à la messe tous les dimanches. Et le comble de l'horreur, c'est qu'on me mettait une robe, on me mettait coquette. Ma mère mettait, je me rappelle, une robe avec des petits marins, avec des broderies faites main et tout. Et j'avais hurlé, je m'étais accrochée aux embrasures de porte pour pas aller à la messe. C'était l'horreur. Mais en fait, les bons moments, c'était quand je revenais. Et puis que mon arrière-grand-mère, que j'ai conservée longtemps, mon arrière-grand-mère Aurélie, qui était cuisinière de son auberge, et qui l'avait passée à sa fille et puis à mes parents, mais qui était toujours sur place, faisait une sauce de canard qui était tout simplement à se mettre à genoux devant, c'est le cas de le dire en sortant de la messe, et puis c'était une sauce de canard aux olives, et puis elle me faisait goûter, elle me faisait croire que mon avis était très 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 important pour elle, et qu'elle ne donnerait la sauce à goûter au client que si je l'avais trouvée bonne, et moi je le croyais, mais je n'étais pas imbue de ma personne, mais j'étais plus qu'émue, je pensais que je me sentais vraiment... en plein dans le cœur de mon arrière-grand-mère, en plein en elle, parce que je pensais que la sauce était tellement importante que si elle me l'a donnée à goûter, c'est que c'était une preuve de confiance et d'amour vraiment très, très, très grande. Et alors, elle mettait toujours dans la même soucoupe, je me rappelle, en porcelaine épaisse, avec une petite tranche de pain, mais même pas une tranche du pain qu'on gardait sec, des gros pains qu'on faisait à Poudenas et qu'elle gardait qui avait au moins une semaine. Elle le taillait avec un bon couteau bien aiguisé en mettant le pain contre sa poitrine, une tranche très 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 fine comme de la dentelle, on voyait le jour au travers, et puis elle le mettait sur cette soucoupe en grosse porcelaine qui avait un petit liseré vert pâle et un petit peu même décoloré sur les bords, et elle le mettait un petit peu de sauce de canard Avec sur cette petite tranche fine, et il y avait des fois des petites particules d'olive, et c'était ça commençait, le temps de le porter à ma bouche, ça se ramollissait, j'en avais dans la bouche, c'était vraiment c'était quelque chose, ça explosait dans la bouche, ce goût d'olive fort, avec le velouté de la sauce, avec le un petit peu sec qui fondait à mesure du pain. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et après, j'allais chez mes parents, et puis enfin, dans la cuisine avec ma mère. Et ma mère me faisait vanner la crème anglaise en rentrant de la messe aussi. Alors, elle m'asseyait sur une petite caisse. J'avais posé sur un trépied devant moi une grande, grande bassine, une jolie bassine avec la crème anglaise dedans, et je devais la vanner, c'est-à-dire soulever, comme chacun sait, pour arrêter la cuisson de la crème anglaise. Et qu'elle reste pas tout à fait liquide ni tout à fait épaisse, et la soulever à la louche, la soulever, l'aérer, la laisser retomber. Et chaque fois en la soulevant, et quand la crème anglaise retombait là comme ça, vous savez, comme une rivière un peu épaisse là, chaque fois il y avait cet arôme typiquement gascon d'eau de fleurs d'oranger et de vanille qui m'emplissait là. Mais la bouche, les narines, les yeux, tout, j'étais toute même submergée, pas seulement. Ça m'emplissait, cette crème anglaise, c'était ces arômes, mais capiteux d'eau de fleurs d'oranger, de vanille. Alors, comme j'avais beaucoup d'imagination et que j'aimais beaucoup l'idée des voyages, eh bien, la vanille, tout ça, ça me faisait penser à des choses que j'avais déjà lues ou que je ne discernais pas encore, que je ne connaissais pas, mais que j'imaginais. Et après, même à l'école, je repensais à cette crème anglaise, parce que quand on parlait des produits des Antilles ou des produits de l'Afrique, ou quand la maîtresse parlait en géographie des plateaux d'Amazonie, du Kenya et du café et des choses comme ça, et quand elle parlait de vanille et d'eau de fleurs d'oranger, ben c'est cette crème anglaise qui me revenait à l'esprit, et j'ai jamais oublié.
C'est les mots, c'est aussi le goût, c'est les saveurs.
Ah oui, de toute manière, quelqu'un qui ne sait pas trouver des saveurs, qui n'est pas conscient des saveurs, c'est qu'il est mort-vivant, quoi. Et ça, c'est vraiment très inquiétant, ça me fait peur pour lui ou pour elle. Mais savoir parler des saveurs, c'est encore autre chose, parce qu'il faut se laisser aller et abandonner toute pudeur. Et puis c'est quand même quelque chose de tellement sensuel souvent, la plupart du temps, quoi, que si on se laisse aller, et ben je pense par exemple au chocolat. Le chocolat, quand on savoure du chocolat ou un gâteau au chocolat bien fondant, c'est à la fois sauvage, violent, sensuel, mais à la fois aussi il y a une douceur, et c'est quelque chose de tellement voluptueux que vraiment on est bien. Enfin, il faut se laisser aller à en parler sans pudeur, c'est sûrement le plus difficile, les gens n'osent pas. Et il y a par exemple la poule au pot, moi je le dis, elle est bonne quand elle s'abandonne aussi. Bon, il y a plein de termes comme ça, et pour une sauce au vin liée au sang par exemple, ou une sauce, il faut qu'elle soit, ça n'a rien à voir avec le corps, mais enfin, il faut qu'elle soit moirée, qu'elle s'étende aussi voluptueusement, qu'elle soit vraiment abandonnée aussi, mais qu'elle maîtrise en même temps, mais qu'on se sente mieux et meilleur. Je suis la cinquième génération de femmes cuisinières de son auberge, dans ma famille. Et les hommes, à part mon père, les hommes étaient artisans ou forgerons ou maréchal ferrant et travaillaient à côté et venaient aider le soir. Voilà, et puis je suis née à Poudenas. Bon, je suis partie donc à l'âge de 16 ans. Mes parents m'ont mise, je dis, à l'école hôtelière de Grenoble et je ne voulais pas y aller. Et il n'y a pas longtemps que j'ai réalisé que j'ai même pas eu l'idée de louper mon concours d'entrée parce que j'étais fière, je voulais réussir. Mais j'ai pensé après, pourquoi je ne l'ai pas loupé, c'est ça. Je ne voulais pas y aller, mais d'un côté, c'est très très bien parce que j'ai eu des bons maîtres, mais je ne voulais pas l'école. Je voulais la vie active, mais là j'ai rencontré mon mari Richard et ne serait-ce que pour ça, c'est bien d'y aller. Et puis ça m'a permis de voir que je me disais j'aime la cuisine, mais je l'aime comme un hobby, et je l'aime tellement la cuisine que je ne vais pas le faire à heure fixe, à tous les jours, deux fois par jour, me mettre comme pour un travail, me mettre devant les fourneaux. Et puis je ne pourrais pas, avec le caractère que j'ai, indépendante comme je suis, passer ma vie à heure fixe à cuisiner. Et puis j'aimais plus les préparatifs finalement et la cuisine. Je me disais pourquoi un public en fait, mais j'étais trop jeune pour avoir compris ce don de soi que j'ai compris. Je le comprenais mais à sens unique, venant des gens qui m'aimaient envers moi. Et finalement, bon, après la sortie de l'école hôtelière, j'ai travaillé avec des grands chefs, dont le premier, Jo Rostand, qui a été après à la Bonne Auberge Antibes, qui était à Sassenage à l'époque, et qui a été un grand maître qui criait et tout ce que vous voulez, mais il était juste et surtout, il m'a appris, déjà que j'ai ce tempérament, mais les femmes de chez moi ne trichaient pas, mais j'ai toujours eu horreur de la tricherie. Et j'ai vu qu'on pouvait faire ce métier, et après j'ai appris combien le terme de métier était noble aussi, et qu'on pouvait faire ce métier tous les jours. Et comme je pensais à date fixe, c'est pas date fixe parce qu'en fait on cuisine tout le temps, ou on prépare, ou après, ou on reprépare, ou on rechoisit, ou le marché, ou penser à ce qu'on va faire d'autre, changer, etc. Et on est en cuisine. On est en cuisine, c'est ce que explique aux jeunes qui débutent. Il faut penser que vous allez rentrer en cuisine.
En religion.
Comme on rentre en religion. Et si il faut penser à ça pour votre vie privée, pour tout, parce que ça devra passer avant. Sinon, vous stationnerez, vous serez alors un cuisinier à l'heure. Mais si vous voulez vraiment cuisiner, vous donnez entièrement, et ça en vaut la peine. Et puis quand même, j'ai fait 5 enfants, bon, en 4 grossesses, on peut aussi avoir une vie, si on veut des enfants ou si on n'en veut pas, peu importe. Mais c'est pas peu importe, mais enfin, c'est un choix personnel. Mais enfin, on peut avoir une vie comme tout le monde. Et même on vit à contre-courant des autres, ce qui n'est pas plus mal des fois aussi. Et alors donc après, bon, et bien j'ai dit j'en fais mon métier et puis je ne l'ai jamais regretté. Et j'ai surtout pas envie d'arrêter. Quand les gens me disent « Oh, quand vous arrêterez », j'ai dit « Arrêtez, vous me tuez !»
De bouche à oreille, par René Elgaïm Bollinger. Aujourd'hui, du côté de Poudenas, portrait de la belle Gasconne, avec Marie-Claude Gracia. Mixage, Gérard Servet. Réalisation, Anne-Marie Chapoulier.
C'était le premier épisode de Saveurs, Savoir et Rêveries Gustatives, une série de René Elkaïm Bollinger pour De Bouche à Oreille, réalisée par Anne-Marie Chapoulier et diffusée pour la première fois le 1er août 1994.